Et c'est l'heure du journal présenté par Antoine Maret. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Nous reviendrons sur l'attaque qui a eu lieu hier à New York. Le suspect a préparé l'attentat, un attentat commis au nom de l'État islamique. C'est ce qu'a confirmé la police new-yorkaise cet après-midi. Et puis avec notre invité Laurence Nardon de l'IFRI, nous tenterons de décrypter les nombreux tweets de Donald Trump. En Espagne, la justice convoque Carlos Puigdemont, mais le dirigeant indépendantiste se trouve toujours en Belgique et son avocat affirme qu'il n'a pas l'intention de répondre à cette convocation. Dans l'actualité française, vers un nouveau parti à droite, après l'exclusion hier des quatre constructifs de LR, et puis un dossier économique aujourd'hui consacré à Orange qui doit lancer sa propre banque dès demain. Au lendemain de l'attaque terroriste qui a fait 8 morts et 11 blessés à New York, les regards se tournent vers le suspect. L'homme a foncé sur des cyclistes et des passants hier après-midi en pleine fête d'Halloween. Il a été interpellé, blessé, mais vivant par les forces de l'ordre. Il s'agit d'un homme de nationalité ouzbek de 29 ans, arrivé aux États-Unis en 2010, titulaire d'un permis de séjour permanent. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Antoine.
Vous êtes notre correspondant à New York. Le suspect a été opéré hier soir. Ses jours ne sont plus en danger. Les enquêteurs ont pu lui parler. Ils ont d'ailleurs donné une conférence de presse cet après-midi.
Oui, Saifullo Saipov. Les autorités prononcent pour la première fois le nom du suspect. Préparait son attaque depuis des semaines, c'est ce que dit le porte-parole de la police de New York. Et il a commis cet attentat au nom du groupe État islamique. Les enquêteurs confirment qu'ils ont trouvé près de la camionnette une note en arabe dans laquelle l'assaillant prête allégeance à Daesh. Deuxième information de cette conférence de presse, l'homme n'était pas sur les radars du FBI. Il ne faisait l'objet d'aucune surveillance ou enquête particulière. Troisième information, le marathon de New York prévu dimanche aura bien lieu. Il n'y a pas de menace particulière, précise le maire de Blasio, mais l'épreuve, c'est 50 000 athlètes et 2 millions de spectateurs seront placés sous très haute surveillance avec des forces de l'ordre lourdement armées et des tireurs d'élite tout au long du parcours. La sécurité est renforcée aussi dans toute la ville de New York, les lieux de culte, les tunnels, les aéroports et les gares. La question à laquelle, en fait, on n'a pas de réponse, c'est de savoir si le suspect répond ou non aux questions des enquêteurs du FBI. Vous l'avez dit, l'homme est hospitalisé, il est placé en garde à vue, il est blessé mais vivant, et les agents fédéraux vont continuer à l'interroger dans les prochaines heures ou les prochains jours. On ne sait pas pour l'instant s'il coopère et s'il répond à ces questions.
Merci à vous, Grégory Phillips. Donald Trump, comme à son habitude, a abondamment tweeté après l'attentat d'hier soir. Il a polémiqué notamment au sujet du système d'attribution par loterie des cartes vertes, celles qui donnent le droit de s'installer aux États-Unis. Pour le moment, les enquêteurs ne confirment pas que le suspect ait bénéficié de ce système de loterie. Je vous le disais dans les titres, nous devrions avoir dans ce journal comme invité Laurence Nardon, qui dirige le programme Amérique du Nord à l'Institut français des relations internationales, mais nous avons quelques problèmes de communication pour le moment. Nous allons réessayer. En attendant, on va parler donc de l'Espagne avec une question ce soir. Carlos Puigdemont va-t-il répondre à la demande de convocation du juge d'instruction de l'audience nationale à Madrid? Pour l'instant, le dirigeant indépendantiste catalan se trouve toujours en Belgique. Son avocat déclarait qu'il ne se rendrait sans doute pas à cette convocation. Bonsoir Marie-Hélène Ballestero.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondante à Madrid. Il faut dire que Carlos Puigdemont risque gros, hein.
Oui, tout à fait. Il risque jusqu'à 30 ans de prison, tout comme les 13 membres de son gouvernement déchu. Ils sont tous poursuivis pour rébellion, sédition et malversation. La juge de l'audience nationale à Madrid, Carmen Lamela, les a convoqués demain et vendredi. S'ils ne se présentent pas, le parquet espagnol devrait demander leur arrestation. Alors, comme vous le disiez, l'avocat belge de Carlos Puigdemont a déclaré que son client n'a pas du tout l'intention de se rendre demain à l'audience nationale à Madrid. Il compte rester en Belgique, tout comme 4 ministres du gouvernement catalan déchu qui l'ont accompagné dans sa fuite. L'avocat Paul Bécard a suggéré que son client et les 4 ministres pouvaient parfaitement être interrogés en Belgique. La juge Lamela de l'audience nationale ne s'est pas encore prononcée, mais vraisemblablement, si Puigdemont et ses conseillers décident de rester à Bruxelles, l'Espagne devrait délivrer immédiatement un mandat d'arrêt européen. Concernant les autres ministres qui sont actuellement en Espagne, ils devraient tous, normalement, demain et vendredi, comparaître devant la juge Lamela à Madrid, et certains pourraient pourrait être placé en détention provisoire. Par ailleurs, il y a un autre volet judiciaire qui concerne la présidente du Parlement catalan, Carme Forcadell, démise aussi de ses fonctions, et les 5 membres du bureau des présidents du Parlement. Alors, eux doivent comparaître aussi demain et vendredi devant la Cour suprême à Madrid, qui est compétente pour les députés, car ils ont facilité le vote de la déclaration unilatérale d'indépendance au Parlement catalan. Les faits qui leur sont reprochés sont les mêmes, rébellion, sédition et malversation. Certains d'entre eux ont pris cet après-midi le train pour se rendre à Madrid, et dans la gare de Sants, à Barcelone, ils ont été acclamés par un groupe d'indépendantistes catalans, tandis que d'autres personnes sont venues crier leur colère avec des drapeaux espagnols en criant « Viva España » et « Puigdemont en prison ».
Merci Marie-Hélène Balestero. On revient comme promis à l'actualité new-yorkaise avec notre invitée Laurence Nardon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez, je le disais, le programme Amérique du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Donald Trump, comme à son habitude, a abondamment tweeté après l'attentat. Il continue de le faire d'ailleurs. Son dernier tweet évoque la possibilité d'envoyer le suspect à Guantanamo. Il a également tweeté sur polémiquer autour de l'attribution par loterie des cartes vertes. Sur ce sujet, la polémique est installée. Est-ce qu'elle peut profiter au président américain et à sa politique anti-immigration?
Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on pourrait lire cet attentat horrible d'hier comme un échec pour le président, puisqu'il n'a pas su assurer la sécurité de ses citoyens. Et en même temps, évidemment, il va le récupérer pour aller dans le sens d'un de ses grands thèmes depuis qu'il est président, qui est la menace venue de l'extérieur, en l'occurrence une menace terroriste, puisque l'attentat semble être lié à Daesh. Donc pour lui, aujourd'hui, pour ce qu'on peut en dire, c'est plutôt une bonne affaire, parce que ça détourne en plus l'attention de l'affaire russe. Vous savez que lundi, il y a eu trois mises en examen. Donc c'est plutôt une bonne opération pour lui, effectivement.
Une bonne opération, peut-être, mais des excès possibles sur Twitter, notamment là sur la possibilité d'envoyer le suspect à Guantanamo, évoqué par Donald Trump.
Ah oui, des excès sur Twitter, de toute manière, c'est quotidien avec Trump. Donc oui, il dit il va porter des paroles excessives sur ce média. Je suis pas plus surprise que sur d'autres sujets entre nous.
Mais est-ce que les Américains n'attendent pas un peu de retenue de la part du chef de l'État dans un moment grave comme celui-là?
Ça dépend de quels Américains vous parlez, parce qu'en fait, nous, vu d'Europe, nous lisons le New York Times et le Washington Post, donc on a qui tire à boulet rouge sur le président, donc on pense qu'il est excessif, etc. Mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a encore 35 à 40% des Américains qui ont une opinion favorable du président et pour lesquels, jusqu'à présent, il reste complètement inoxydable. C'est-à-dire que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, sa cote de popularité ne baisse pas en dessous de 35%. Donc ces gens-là seront satisfaits de ces excès. De toute manière, ce sont probablement des gens... Rappelez-vous, Hillary Clinton les avait qualifiés de « basket of deplorable », c'est-à-dire des gens vraiment lamentables. Ça lui a coûté très cher, d'ailleurs. Bon, ces gens-là seront, je suppose, plutôt contents des excès et des déclarations du président au lendemain de cet attentat.
Ce système de communication par Twitter très propre à Donald Trump, est-ce que là, il ne va pas arriver à sa limite? Parce que dans un moment pareil, un moment de recueillement nécessaire, tweeter sans arrêt.
Il y a eu l'attentat terrible de Las Vegas il y a quelques semaines, après lequel le président n'avait pas semblé extrêmement assagi. Donc je pense que ce mode de communication direct avec le peuple qui est Twitter, hein, finalement c'est vraiment très très plébiscitaire, hein, ce mode de communication très populiste, puisqu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de cadre, c'est vraiment le chef qui parle au peuple. Alors tout cela est évidemment très fantasmé. C'est très Trumpien finalement, et je ne pense pas que ce mécanisme va s'interrompre. Demain, Trump, il semble très attaché, et sa base aussi,
et on l'a vu là avec le système d'attribution par loterie des cartes vertes, alors qu'on ne sait pas encore si le suspect était concerné par cela. Eh bien, on voit Trump qui d'ores et déjà tweet sur ce sujet-là. Les faits aussi peuvent le contredire après.
Oui, bien sûr. Mais non, mais il n'est pas du tout gêné par la vérité, on le sait. Hein. Il n'est pas du tout gêné par le fait de dire quelque chose et se contredire lui-même le lendemain, ou d'être contredit par les contre-pouvoirs qui sont à l'œuvre dans le pays, que ce soit, rappelez-vous, les cours qui, par 4 fois maintenant, ont retoqué, si vous me permettez cette expression, son décret sur l'immigration en provenance de pays à majorité musulmane, ce qu'on appelle le Muslim Ban, qui a été bloqué, ou en tout cas amoindri, à 4 reprises par les cours. Donc, il dit quelque chose, les contre-pouvoirs disent l'inverse, ça ne fait que prouver le fait qu'il y a une collusion des élites contre le peuple américain qui, lui, est véritablement défendu par ce champion, entre guillemets, que Trump aspire à être.
Merci. Merci beaucoup à vous, Laurence Nardon, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous dirigez le programme Amérique du Nord à l'IFRI. Vladimir Poutine est en Iran. Le président russe a atterri en début d'après-midi à Téhéran pour y rencontrer son homologue iranien, le président Rouhani. Au menu des discussions, la Syrie et le nucléaire, Siavosh Ghazi.
La Russie est un pays ami et un partenaire stratégique de l'Iran, a déclaré Hassan Rouhani en recevant le président Poutine. Il a aussi affirmé que la coopération de l'Iran et de la Russie a eu un grand effet dans la lutte contre le terrorisme en Syrie, tout en appelant à la poursuite de cette coopération dans la phase finale de cette lutte. Avant même l'arrivée du président russe, son chef d'état-major l'a précédé à Téhéran pour parler coopération militaire et coopération en Syrie. Dans le domaine nucléaire, la Russie et l'Iran coopèrent déjà pour la construction de 2 nouveaux réacteurs dans le sud iranien. De même, le géant russe des hydrocarbures, Rosneft, et la compagnie nationale iranienne de pétrole ont signé une feuille de route pour développer toute une série de champs de pétrole et de gaz, avec un investissement total de près de 30 milliards de dollars. La visite du président russe intervient également alors que les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie et l'Iran, qualifiés d'adversaires de l'Amérique. Le Trésor américain a modifié mardi sa réglementation pour ajouter les gardiens de la révolution, l'armée d'élite iranienne, à la liste des groupes soutenant le terrorisme et a renforcé les sanctions contre 12 personnalités iraniennes et une 30aine d'organes liés à ce corps. Enfin, la visite du président russe intervient alors que Moscou a vivement dénoncé les récents propos de Donald Trump qui a menacé de faire sortir son pays de l'accord nucléaire conclu entre l'Iran et les grandes puissances.
18h12 sur France Culture, après plusieurs semaines de confusion, les Républicains ont finalement exclu hier soir les 4 ministres et responsables constructifs et acté le départ d'Édouard Philippe. Cela laisse désormais à ses pro-Macron le champ libre pour la création d'un nouveau parti politique. Et ça avance, à en croire Laure de la Rodière, député LR membre des constructifs. Cela pourrait se concrétiser début 2018, selon elle. Elle est scandalisée par la décision de son parti. Elle assure que la rupture est consommée, Viviane Le Guen.
Peut-être qu'un jour, ils reviendront, disait hier soir Roger Karoutchi à la sortie du bureau politique des Républicains. Après l'exclusion des pro-Macron, plusieurs cadres émettent le même vœu dans le parti.
C'est trop tard.
Inenvisageable pour Laure de la Rodière, députée Les Républicains de Eure-et-Loir et membre des constructifs.
Exclure un premier ministre qui applique plutôt un programme de droite, c'est quand même complètement insensé. Et après, ils veulent qu'on vienne, mais qui balayent devant leur porte, qui réfléchissent aussi aux raisons de notre échec en 2012 et en 2017, qui se remettent en cause.
Elle croit à la création d'un nouveau parti de centre-droit et demande à la droite d'aller au bout de sa logique.
Un député, ça rapporte à un parti à peu près tous les ans pendant la durée du mandat, 15 à 20 000 euros, ça dépend du nombre d'électeurs, ça dépend, voilà. Moi, je demande à ce que le parti politique, les Républicains, week-end nous reverse l'argent, puisqu'il nous exclut qu'il reverse l'argent au futur parti politique que nous allons créer.
Un nouveau parti qui pourrait voir le jour en début d'année prochaine. Il regrouperait dans un premier temps les personnalités de droite qui ne se reconnaissent plus chez les Républicains.
Ce futur parti concerne pour l'instant les députés qui sont issus des Républicains et membre du groupe Les Constructifs. Donc peut-être qu'on fera quelque chose dans un deuxième temps avec l'UDI, mais l'UDI a sa ligne idéologique. Nous, on va défendre la nôtre, qui est libérale, de droite modérée, convaincue que nous devons défendre la France au sein de l'Europe et sans aucun repli identitaire de la France.
Si le principe semble acté entre les élus de droite, reste à aplanir les divergences avec l'UDI. Exclus des Républicains, certains constructifs pourraient aussi céder aux sirènes de La République En Marche.
Trois quarts des enfants entre 2 et 4 ans dans le monde sont victimes d'agressions psychologiques ou de punitions physiques, souvent par des personnes qui s'occupent d'eux. C'est le constat de l'UNICEF dans un rapport qui sort aujourd'hui. Ça concerne les enfants de tous les âges et dans n'importe quel contexte, surtout à la maison. En France, selon une étude de l'INSERM qui remonte à 2010, 2 enfants meurent chaque jour suite à des maltraitances. Elles peuvent être physiques, ces maltraitances morales ou sexuelles. Et la violence physique sur les enfants reste malheureusement banal en France. Reportage de François-Pierre Noël.
Cette violence physique contre les enfants, on la retrouve essentiellement dans le domaine familial, entre les parents, les beaux-parents parfois, et ça touche surtout des enfants très jeunes. Claudia Capa, responsable des données sur la protection des enfants à l'UNICEF.
Les parents ne connaissent pas forcément des méthodes non violentes pour pouvoir éduquer un enfant. Il s'agit de particulièrement le cas des enfants les plus petits, parce qu'ils n'ont pas encore en mesure de développer une relation avec les parents. Donc les parents sont très souvent frustrés.
Et selon l'UNICEF, plus de la moitié des enfants entre 1 et 2 ans subissent une discipline violente. Ils sont secoués, parfois giflés. Ces jeunes ne sont pas seulement victimes, mais ils sont aussi témoins de violences.
Dans le monde, un enfant de moins de 5 ans sur 4 vit avec une mère qui est victime de la violence de la part de son partenaire intime.
Et quand ces jeunes arrivent à l'âge adulte, ils sont touchés psychologiquement. Gwendoline Guillard est psychologue à l'association L'Enfant Bleu.
À l'âge adulte, on va observer, en fonction des personnes, hein, évidemment, des symptômes anxio-dépressifs, hein, des dépressions qui vont aussi parfois s'accompagner de dépendance, d'addiction forcément. Alors aussi la répétition parfois, répétition dans la maltraitance. Ce qui ne signifie pas qu'un enfant maltraité devient un parent maltraitant.
En 2015, on estimait à 19 000 le nombre d'enfants subissant des maltraitances en France.
La plaque disposée dans un parc communal a été découverte le matin par un couple de promeneurs. Il s'agit de la profanation de la stèle en mémoire d'Ilan Halimi qui avait été assassiné en 2006 par le gang des barbares. Elle a été découverte, cette plaque couverte d'inscriptions antisémites et d'insultes. Une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire. Maintes fois annoncé et repoussé, c'est finalement demain que l'opérateur téléphonique Orange lance sa propre banque, une banque sur mobile. André Coin, le PDG de cette nouvelle banque, a confié hier vouloir récupérer à terme 25% du marché de la banque en ligne. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Ambition forte, car pour le moment, les Français sont plutôt conservateurs, ils changent peu de banque.
Et oui, et ce, en dépit de diverses lois qui, depuis 10 ans, cherchent à faciliter la mobilité bancaire. Les choses ont cependant vraiment progressé sur le plan légal. Fut un temps, votre banque pouvait vous faire payer votre départ. Depuis février dernier, c'est elle qui doit s'occuper de transférer la domiciliation de vos virements et prélèvements divers, salaires, factures mutuelles, etc. Et tout ceci gratuitement. Alors, il est encore un peu tôt pour mesurer l'effet de cette mesure qui était contenue dans la loi dite Macron. Selon une enquête menée sur 8000 Français, 5% ont changé de banque depuis sa mise en œuvre. Alors si on regarde la photo générale, seulement 10% des Français ont un compte dans une banque en ligne, mais ce chiffre progresse quand même et certaines projections estiment que le nombre de comptes bancaires en France pourrait passer de 80 millions aujourd'hui à 100, 110 millions à l'avenir. Voilà pourquoi de nouveaux acteurs font leur apparition. Demain donc Orange, il y a quelques mois Carrefour, dans quelques moi peut-être SFR. Certaines de ces néobanques, comme on les appelle, ou fintech, viennent parfois d'autres pays européens, Allemagne, Angleterre notamment, et proposent de nombreux services gratuits, sous conditions, et surtout de nouveaux modes de gestion de son compte bancaire via son téléphone mobile. Alors dans cette compétition, Orange a un peu plus d'atouts que ses concurrentes parce qu'elle a déjà des clients, une réputation et qu'elle s'appuie sur Groupama, une banque qu'elle a rachetée au préalable. Pourtant, les experts estiment qu'il faut entre 10 et 20 ans pour qu'une banque devienne rentable. La plupart des banques en ligne ne le sont d'ailleurs toujours pas.
Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles ces nouveaux acteurs font leur apparition sur ce marché de la banque de détail? Marie, vous avez posé la question à Jézabel Coupet-Soubéran, maître de conférence à Paris 1 et spécialiste du secteur bancaire.
Les banques, depuis un certain nombre d'années, les grandes banques en situation de domination sur le marché, ont largement négligé les activités de détail. Elles se sont, pour la plupart, assez largement concentrées sur le développement de leurs activités de marché et elles ont négligé leur clientèle de détail. Or, dans le même temps, il y a eu un formidable développement technologique du numérique permettant à des acteurs de plus petite taille, maîtrisant ces nouvelles technologies, d'être en capacité d'offrir de nouveaux services plus adaptés au profil des clients et avec vraiment de nouveaux modèles d'activité permettant d'offrir ces services à des tarifs plus attractifs. Donc moi j'ai presque envie, si vous voulez, d'attribuer en fait cette évolution à la passivité des banques sur le terrain des activités de détail. Elles ont négligé cette clientèle de détail et bah, au fond ça a créé des opportunités pour de nouveaux acteurs qui ignorent beaucoup du métier de banquier. Donc je pense qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. Ce dont on peut un petit peu se réjouir, c'est quand même du fait que le jeu est en train de s'ouvrir sur le marché. Ces gros acteurs qui étaient en position de domination, eh bien, vont être obligés de bouger un peu, de s'adapter et de mieux traiter leur clientèle de détail qu'ils ne l'ont fait au cours des dernières décennies.
Demain, il fera beau partout, sauf en Bretagne. Légère remontée des températures, 7 à Lille, 10 à Paris, 12 à Brest, 18 à Ajaccio. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal à 22h, il vous sera présenté par Valentine Joubin.